est-ce que pas ou non?
Nan pandi rêv nou tèt an ba, nan pimpe krem peyin la ba, nou san destinasyon, nou san destinasyon. Nan rile viv ou bien an ba, nan goumen nan mouve komba, nou ba indignasyon, nou ba indignasyon. Nan ouve pot pou tout vie a di pou potre, fiat en vire l'ove, nan mette gadi pot gagote sa nou posede. Nous perdis pour rêver, nous presque pas mon encore. Nous presque pas mon encore. Nous oublions ça que fait d'Haïti. Nous presque pas mon encore. Nous presque pas mon encore. Nous oublions ça que fait d'Haïti.
C'est vraiment la question que nous avons posée tête nous. Est-ce que y a moun encore dans le pays? Et en dépit de virus qui gagne, carnaval, moun dans carnaval sans masque, et nous sommes là du côté de l'Artibonite dans carnaval, côté que yon machine foncée, il y a 5 moun machine grasée. Pendant que y a voyé belle yayade, eh bien, machine a monté sous monde. C'est réel, carnaval gâté. Du côté de Jacques Mel, nous connaissons que même employé de la mairie, te voulait révolter parce que yo pas payé. Nous parlons en direct quand du côté du sud-est, et dans la zone famille sorti. Et Joannel Nabdou, bonjour et bienvenue sur Radio Paula.
Bonjour Raymond, bonjour avec tout auditeur spécial émission Samedi Midi Inter. C'est le rendez-vous du week-end hebdomadaire chaque week-end samedi. On connaît fort nous disons ça qui a passé dans le sud-est là en général. Mais Raymond, quittez-nous commencer avec question carnaval qu'on s'est soulevé là. Effectivement, nous songeons que Jacques Mel, malgré toute situation controversée qui t'est gagné autour du carnaval, incertitude qui t'est gagné auprès du pouvoir central sur la réalisation du carnaval, mais Jacques Mel a tenu le rendez-vous à sa 30e édition du carnaval national, carnaval traditionnel qui souvent et qui toujours réunit en pile monde qui soutient dans tout pays et dans la diaspora haïtienne pour venir regarder plus bel carnaval qui existait dans toute région caraïbéenne. Un carnaval qui même gain niveau de concurrence avec le carnaval du Rio de Janeiro au Brésil. Mais cependant, et carnaval là t'est fait dans son fond de tension puisque dans un premier temps et Pat Ginkob. Nous te connaît que acteur carnaval yo qui réunit au sein d'un groupe que aurait les Carissim qui c'est Bon Maskeo, également ODBJ qui c'est Bon Apieyo, également groupe Sonorio. Yo te en difficulté pour yo te capable sortir à cause pouvoir central là, particulièrement ministère culture à communication pas mettre l'argent disponible pour yo. Habituellement, yo qu'on recevoir entre 20 à 40 millions goudes. Année ça, le bruit c'était yo te mettre seulement 10 millions goudes alors que Carissim pour compte groupe Maskeo yo te gon budget qui élevé à 17 millions de goudes. Donc situation devine arriver jeune au modus operandi au modus vivendi lorsque Bon Maskeo yo te décidé sortir carnaval là sous promesse le ministère de la culture t'a pral bay 40 millions goud. Donc les trois journées gras, alors carnaval national Jacques Mel qui était présidé les trois journées gras et finalement vin fête, c'était mardi. Nous sommes à 4 jours de la fin du carnaval à Jacques Mel. Jusqu'à présent et acteur carnaval yo poko capable recevoir cob. Faut nous dire que 40 millions goud qui était promesse là et information qui rive joindre nous de sûre. Donc c'est à seulement 10 millions goud d'amet disponible pour l'ensemble de l'organisation du carnaval, c'est-à-dire le comité du carnaval et la mairie. C'est à seulement 10 millions de gouttes qui sont disponibles pour eux. Et puis les autres 30 millions de gouttes sont dissipés ou bien séparés entre journalistes qui sont dans la capitale haïtienne avec ministre culture dans une activité qui était réunie. Une centaine de monde, 30 millions de gouttes sont arrivés. Je vais dépenser là dans un soir éthique qui était précédé le carnaval national. Entre temps, on me dit de soucis toujours, les acteurs du carnaval, ils ont menacé pour bloquer le fonctionnement de la ville Jacques Mel parce que ils n'ont pas qu'à recevoir COB. C'est dans une réunion avec le maire, le magistrat Maki Kessa, qui dit qu'il y a des négociations qui entreprennent, il y a des pourparlers qui entreprennent pour regarder comment le ministère de la Culture a retourné les 30 millions de gourdes que il dit qu'il dépensait dans le cocktail politique pour continuer capable de quimber sérénité dans la ville. Entre temps, il y a des menaces. Si rien n'est pas fait d'ici lundi, mardi, il y a des bruits et des menaces pour que il bloque le fonctionnement de toute activité qui est dans la ville. Entre autres, quand le carnaval là, le fait, c'est vrai, bilan carnaval là, il y a plus passé une trentaine de monde qui est blessé, que ce soit à coup de poing, avec arme blanche ou bien monde qui était évanoui, gain ensemble nan yo qui était à recevoir soin l'hôpital Saint-Michel, gain nan yo qui était fait prise en charge sous place. Ça c'est bilan et bureau départemental et de la protection civile mettez dehors et publié même sur réseaux sociaux. Entre-temps, déjà les Jacmeliens commencent à se préparer pour la 31e édition du carnaval national. Entre-temps, nous connaît que à travers le pays, tant côté souligné, gain des victimes, que ce soit des victimes à cause des gain frein et char sonore qui lâché qui tue monde. Et machines qui ont circulé passé tué moun, tant qu'on a des dunes, 5 moun rive mourir parce que machine rentrée sous foule là et 18 l'autre blessé. Et donc, bilan carnaval à Nissa, pour Jacques Mel, li relativement élevé parce que Jacques Mel, pas qu'on habitué à enregistrer tout moun sa ou qui blessé, mais pour le pays en général, il y a vraiment de quoi de repenser le niveau du carnaval et à travers le pays. Et puis, autre nouvelle, Raymond, c'est que le directeur départemental de la santé publique et du Sud-Est a parlé de monsieur, ou bien docteur Newton jeudi, dans une conversation ou bien dans une interview exclusive que l'on a accordé avec Radio Osana et Radio CKUT, il fait connaître que le département sanitaire a un gros problème pour fonctionner et qui a un gros impact sur le fonctionnement de l'hôpital Saint-Michel, qui est l'hôpital de référence. Pourquoi? Parce que blocus qui a un matissant qui fait que gain train yo gain qui disponible dans ça yo ta al prend yo pa ka joine et en plus ajouter avec médecin yo et personnel médical yo qui pa vle vinn travail gain qui pa vle vinn travail sous prétexte que yo bloqué effectivement dans l'ouest et gain en pile nan yo qui abandonné poste yo qui aller dans l'autre pays mais ça pas empêcher que toujours à recevoir comme par virement bancaire. La décision qui prend, d'après communication directeur départemental la fait connaître, l'actuel ministre de la santé li tourné sous décision au lieu de payer personnel médical ou par virement bancaire, qu'on y a ces chèques que vous voyez. Une manière, d'après le directeur départemental la Newton jeudi, notre direction départementale là, avec direction médicale l'hôpital Saint-Michel, pral capable d'agir pour corriger la situation ça par rapport avec des médecins, des personnels médicaux qui de mauvaise foi, qui pour enquêter. Une raison valable pas voulait présenter dans Postio une situation qui plongeait l'hôpital là dans un dysfonctionnement total et qui quelquefois soulevait frustration et colère des parents patients qui ont même rivé vandaliser l'hôpital là le gain au monde qui mourit que ce soit dans l'urgence ou bien dans un service d'internat qui gagne en dans l'hôpital là Raymond Laura.
Alors Napedou merci et bon bagage Et puis, à la semaine prochaine, mon cher. Attention à toi.
Merci beaucoup, Laurent. Merci à tout auditeur. Joannel François, depuis Ville-Jacmel, pour Radio Sécurité Montréal.
Alors, et c'est ça. Et nous, la situation est vraiment grave et grave. Alors, et m'a rappelé nous que n'a pas gagné un panel de plusieurs invités. Et c'est pour tout à l'heure. En attendant, nous sommes dans le sud-est. Nous pour aller dans le grand sud avec un Waldend Germain qu'on écoute immédiatement.
Mes nouvelles département Grand Danse dans le pays d'Haïti, c'est FEBGA qui sont organisation femmes. Te lancé inscription pour faciliter femmes entrepreneurs qui veulent rejoindre yo vin rentrer dans réseau Payoa et c'est FEBGA organisation femmes ça pral organiser qu'aucun chaîne séminaire de formation dans jou cap vini yo là pour toute femme qui veut lancer petit entreprise avec gros entreprise. Secrétaire bureau d'état intégration moun handicapé yo te rend visite dans ville Jérémie. Objectif visite ça c'était rencontrer ab groupement handicapé yo pour ensemble ak yo ki jan pou yo capable pi bien défendre cause yo. Moun handicapé yo gen droit tout, yo gen place yo nan communauté a tout, handicapé yo pa doué limité yo. Donc c'était un coquin chien plaisir pour monsieur Tevini nan département Grand Anslan. Nan période Mardi Gras Carnaval, deuxième jour gras précisément, te gon groupe moun nan foule ban ki te fait échange de tir avec la police et nan échange de tir sa yo directeur la police ta arrivé prend coup de roche et yon moun nan foule ak se moun sou platon rivé prend un balle caoutchouc jusqu'à présent li sou ka ban l'hôpital la prend soin. Yon l'autre côté la mairie continue fermé parce que employé yo pa touché janté de semaine passée a gen moun ki gen presque 2 ans pa janm touché gen ki gen même plus. Donc c'est toute nouvelle ça on te pote pour c'était serviteur Walden Germain depuis Jérémie.
Alors, et merci Waldend, bon bagaille. C'était en direct depuis la ville de Jérémie. Alors, et n'a pas rappelé nous que n'a pas gagné et plusieurs et un panel de plusieurs femmes avec nous et dans quelques bon non pas dit dans quelques minutes et nous gagnons rendez-vous avec eux. Et pour 11h55, yo ta supposé avec nous. Alors, faut qu'on dise que c'est quand même des gens très impliqués dans leur communauté. Alors, et c'est avec grand plaisir que nous allons rencontrer avec Mounsayo. N'a pas dit non, restez branchés, ça pape trop long. Le temps est pour nous saluer et Diojak qui perdu en fait un petit garçon né et semaine dernière là je crois. Alors faut qu'on dise non, c'est un garçon de 30 et 60 l'année sous tête li. Un garçon li perdu à 60 ans. Alors et dans circonstances ça n'a pas profité occasion pour nous transmettre nos sincères condoléances. Alors nous connaissons que c'est pas facile l'organe un petit garçon calé dans l'ASA et il est pas même capable aller dans funérailles. Alors n'a pas dit qu'embé là et c'est ça nous pas vienne faire et comment dirais-je nous faites pour nous vivre et en même temps tout nous faites pour que nous aller. Alors n'abdi Diojak nos plus sincères condoléances. Nous connaît que ça fait en pile la peine. Nous te prend et ti occasion ça pour nous te annoncer nouvelle ça dans Lyon radio que nous la dernière tous les samedis soirs. Alors le message a été passé, mon cher. Alors nos plus sincères condoléances encore une fois. connais que ça fait en pile mal, mon cher. Hein? Et nos sympathies. Alors, et nous pas oublier, n'a pas gagné avec nous et plusieurs élus au niveau municipal et tout le monde sait, nous avons Erika Alneus et n'a bien Dominique Olivier, n'a bien Gracia Kasoli Katawa et tout le monde sait, ont été élus dans l'élection 7 novembre nan. Et ensuite n'a gagné également yon l'autre invité du côté de Laval également et lui-même li sous plusieurs mandats depuis que li nan Laval. Alors rete branché et puis n'a pas retourné au moment opportun. N'a pas fait une petite pause, une musique qu'on aurait en pile. N'a pas dit, c'est Michel-Ange Basile.
Cette pièce de piano peut vous sembler bien banale. À moins que l'on vous dise que c'est Jeanne, encore prof à 81 ans, qui l'a apprise à la petite Chloé lors de ses cours cette semaine. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
Attention, attention. Vous avez des projets d'achat d'une maison, d'un condo, d'un plex, des projets de financement, refinancement ou de renouvellement hypothécaire? Contactez Louis-Yves Lucien, courtier hypothécaire affilié à Multiprêt Hypothèque. Afin de déterminer le montant du prêt hypothécaire pour lequel vous pourriez être qualifié et obtenir une lettre de préqualification avant de débuter vos recherches, appelez Louis-Yves Lucien. Dans un délai très court et sans frais de votre part, vous obtiendrez une lettre de préqualification hypothécaire émise par l'une de nos plus grandes institutions financières. Vous serez dès lors à un pas de devenir un heureux propriétaire. Communiquez sans tarder avec Louis-Yves Lucien au 514-867-8352 ou par email.
Alors, et nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après.
Fierté, coûte la peau de sa vie. Nous, ces premiers noués sous la terre, c'est sa yodie.
Songez, n'a pas tendre pour nous. L'emblème, nous, c'est progrès. L'union fait la force, mais brisée, malgré terre. Qu'on s'aime toujours d'ailleurs.
On s'entendait, trahison. Sautine en Guinée, mouche blanc, criez la division. Si nous pas l'ouvrir chez nous, dans génération ça, mais qui côté nous pour aller?
C'est ensemble, coup à coup d'arrivée, en fait qu'on bito. Sans cette Dieu t'a dit ça, la l'union fait la force, quand ça nous va marcher. Oh, oh, oh.
Main dans la main, quand ça nous va marcher, dans l'esprit d'amour, l'union fait la force. Main dans la main, quand ça nous va marcher, dans l'esprit d'amour.
C'est Dieu va content, les nous va suivre l'exemple, Dieu t'est tracé depuis dans l'esclavage. Yo, va crier le joie.
Alors, c'est dans quelques minutes que nous allons recevoir nos invités, les cinq. Alors, préparez-vous, chers amis. Nous allons passer une bonne trentaine de minutes ensemble pour parler de vos responsabilités, de vos engagements et surtout l'action communautaire.
Oh,
Alors, et le rendez-vous tel que fixé, j'ai déjà mes invités. Elles sont quatre. Et je vous salue, les quatre invités. Alors, identifiez-vous. Alors, c'est quatre élus du côté, trois élus du côté de Montréal. Et j'ai Madame Marjorie Michel du côté d'Ottawa. Alors, Dominique, tu es là?
Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Dominique Olivier. Je suis conseillère dans le district du Vieux-Rosemont, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, et présidente du comité exécutif. Merci beaucoup, Laurent Raymond, de nous avoir invités.
Ah bon, alors pour ne pas dire, hein, comme la dernière fois, la petite erreur que je faisais. Hein?
Oui, pas président du conseil, président du comité exécutif, moi.
Alors, ministre des Finances. Hein?
L'équivalent du ministre des Finances, oui.
Alors, et la deuxième, c'est la mairesse de Côte-des-Neiges.
Oui, bonjour. Donc, Gracia Kasoki-Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bien contente d'être parmi vous.
Et moi aussi. Alors, étant donné, comme je le disais, en fait, on est le 5, mais je faisais cette émission spéciale. C'est une façon de vous honorer et vous féliciter pour votre élection du 7 novembre 2021. Alors, il manque une autre. Est-ce que la troisième est là?
Oui, je suis là. Bonjour, M. Laurent. Mon nom est Erika Alnéus. Je suis conseillère de ville dans le district d'Étienne-des-Marteaux, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, et responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la ville de Montréal.
Alors,
très heureuse d'être avec vous, M. Laurent.
Vous avez une grande responsabilité également. Alors, Marjorie Michel, bonjour.
Bonjour, Raymond, et bonjour les filles qui sont passées avant moi. Alors, très heureuse d'être avec vous. Écoutez, moi, je suis comme un cheveu sur la soupe parce que moi, je ne suis pas une élue. Je suis chef de cabinet adjointe au bureau du Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Et puis, voilà, je suis très heureuse de me joindre à vous aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'on peut, et chacun de vous, de nous parler de vous également? Et vous pouvez prendre le temps de le faire. Je sais que vous avez un bon bagage intellectuel, communautaire. J'en connais en fait plusieurs, plus particulièrement Marjorie et Dominique Olivier. Et ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Alors, parlez-nous un peu de vous. Ne vous gênez pas, hein? Le micro est à vous.
Ah ben c'est gentil, c'est très gentil, Raymond. Je ne sais pas qui commence. Peut-être qu'on devrait laisser notre amie Gracia commencer parce que c'est quand même elle qui a, qui a brisé le plus gros, je dirais, plafond de verre, puisque c'est à la fois c'est la première femme noire élue mairesse par arrondissement.
Mon Dieu, merci. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur. Franchement, je suis honnêtement très choyée d'être avec des femmes aussi talentueuses autour de moi, des femmes honnêtement qui m'inspirent au quotidien. Et puis Marjorie, je suis très contente de t'entendre, ça faisait longtemps. Donc voilà, écoutez, je suis en effet donc nouvellement élue mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, la première femme noire à obtenir un tel poste à la ville de Montréal. Pour vous parler de moi, je suis une petite fille de la République démocratique du Congo. Je suis arrivée au Canada à la fin des années 80, en fait. J'ai grandi dans la ville de Québec. J'ai grandi dans la ville de Québec dans un environnement autour de l'Université Laval, pour ceux qui connaissent la ville. Donc, un milieu qui est assez diversifié, je pourrais dire, pour ce qu'on connaît de la ville de Québec. Donc, j'ai toujours grandi avec des personnes d'origines diverses. Et un fait cocasse, en fait, c'est que mon groupe d'amis était souvent constitué des personnes qui immigraient suite à des conflits, en fait, à travers le monde. Donc, j'avais des amis de la Bosnie, j'avais des amis du Rwanda, du Congo, de la Colombie, par exemple. Donc, voilà, j'ai grandi dans cet environnement. Toutefois, lorsque j'arrive dans le milieu professionnel, donc à la fin de mes études en sciences infirmières, je me rends compte que plus j'avance, en fait, plus moins, en fait, il y a de personnes issues de groupes diversifiés autour de moi. Et c'est une des raisons qui m'a incité à déménager à Montréal et à venir entamer ma carrière à l'hôpital juif à Montréal en 2009. Et j'aurais jamais pensé à ce moment-là que un peu plus de 10 ans plus tard, en fait, je serais la mairesse de l'arrondissement qui m'a attirée. Donc voilà, c'est à travers, je crois, mes différentes implications sociales que j'ai pu développer des compétences qui me sont importantes aujourd'hui d'utiliser comme mairesse, aussi à travers les compétences développées dans ma carrière. Donc tout ça, accompagné de personnes qui m'ont aidée. Puis je cite Marjorie parce que je l'ai connue dans une implication lorsque j'étais présidente du REPAF. J'ai connu Alnéus, Erika aussi dans mes différentes implications. J'ai eu le plaisir de connaître Dominique durant la dernière campagne. Et toutes ces personnes, je pense, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, ce qui m'a permis de devenir la mairesse de Côte-des-Neiges NDP.
J'aimerais souligner deux choses. La mairie, anciennement, était très contestée avec une personne qui était très arrogante, hein, si ma mémoire est bonne. Et en plus j'aimerais vous souligner...
Je ne sais pas quoi dire.
Non, je ne vous demande pas, c'est moi qui l'ajoute. Hein.
D'accord.
Je l'ai déjà eu en entrevue à CKUT. Alors, et l'autre chose, je dois vous dire que mon parrain enseignait au Congo, mon défunt parrain.
Ah oui.
Et il y a beaucoup d'Haïtiens qui étaient au Congo, et surtout dans l'enseignement. Alors, c'est deux petites choses que je veux souligner. Alors, je vais passer à Dominique. Et qu'est-ce que tu vas nous dire de toi et Dominique?
Moi, j'ai toujours un problème, Raymond, quand tu me mets avec toutes ces jeunes personnes-là.
Oui, hein?
Parce que c'est là que je réalise que ça fait quand même un bout de temps que je mène ma barque et que, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon père était l'écrivain Émile Olivier. Moi, j'ai occupé différentes fonctions. J'ai commencé à faire de la politique active dans les années 1990, au lendemain du référendum, où j'étais attachée politique, conseillère politique de plusieurs ministres du gouvernement du Québec, 5, si ma mémoire est bonne, avant d'aller travailler avec M. Duceppe à Ottawa, notamment au moment où on travaillait beaucoup pour la représentativité, je dirais. Si certains d'entre vous dans les auditeurs s'en souviennent, j'étais donc au cabinet de Gilles Duceppe au moment où des gens comme Marc Yakoto, comme Viviane Barbeau ont été élus députés fédéraux. Et c'était les premiers députés fédéraux de la communauté noire au Québec au sein d'un parti souverainiste. Donc, pour nous, c'était particulièrement des moments de grande joie et d'intérêt. Et puis, lorsque j'ai quitté la politique active, tant à Québec qu'à Ottawa, je suis allée diriger notamment l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes où on s'intéressait beaucoup aux questions d'alphabétisation, mais pas seulement, tout ce qui était la formation professionnelle, la formation continue, même l'enseignement supérieur. Donc, pendant 5 ou 6 ans, on était la voix des groupes d'éducation populaire, des groupes d'alphabétisation auprès du gouvernement du Québec et avec un rayonnement un petit peu international. Et de là, je suis allée à l'Office de consultation publique de Montréal, que la plupart d'entre vous connaissent sûrement pour notre dernière consultation qui touchait aux questions de racisme et de discrimination systémique dans les compétences de la ville, notamment.
Est-ce que je peux ajouter?
Vas-y.
Et tu travaillais avec un Laurent également? Vous avez eu un magazine, quelque chose comme ça?
Oui, avec Alice Laurent, effectivement. Juste avant d'entrer en politique, on avait créé le magazine interculturel Image, qui était notamment à l'origine, on a été les premiers coordonnateurs de la table du mode d'histoire des Noirs. Effectivement, après ça, on a, On a également Image, en fait, toute la gang d'Image a également créé au début des années 2000 la Fonde d'action contre le racisme qu'on va souligner très, très, très bientôt. Donc, au fond, un grand passé militant. Et comme j'ai aimé à dire dans la campagne, ben, pour moi, c'était intéressant, après avoir passé des années à défendre les droits des gens, après avoir passé des années à écouter au sein de l'Office de consultation publique le genre de ville que les gens voulaient, ben, quand Mme Plante m'a offert de me présenter avec elle, ben, c'est avec grande joie que j'ai accepté, en me disant que maintenant on pouvait être à la table des décisions et être capable de prendre les décisions.
Alors, je dois dire également, et tu faisais partie de l'équipe de Radio-Québec quand il fut un temps.
De Télé-Québec, effectivement. Bon, ben, tu connais toute ma carrière. C'est trop gentil, Raymond. Effectivement, oui, on a fait des émissions pour les jeunes. J'ai fait des émissions faites par et pour les jeunes à Télé-Québec. Mais là, ça me ramène loin. On est dans les années 80, 1980. C'est le siècle dernier, ça. Et ensuite, j'ai été chroniqueuse littéraire aussi à l'émission Téléservice. Oui.
Alors, je peux ajouter, lors de votre candidature à l'église en Saint-Édouard, j'étais présent.
Ça, c'était pour devenir député du Parti québécois, effectivement, la circonscription de Gouin.
Alors, c'est quand même très intéressant. Et Marjorie Michel, c'est ton tour. Hein? Alors, je vais demander à Madame Gauthier si elle est à l'écoute, parce qu'on aimerait bien la voir également, la seule élue du côté de Laval. Mais malheureusement, je ne l'ai pas entendue encore. Alors, vas-y, Marjorie.
Bon, merci, Raymond. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, ben, qu'est-ce que je vais vous dire de moi? Bon, d'abord, moi, je suis une psychologue sociale. C'est ça ma formation et je crois que ça a vraiment guidé toute ma vie. Depuis que je suis petite, je suis une personne extrêmement engagée. Je vous dirais que ma folie, c'est que je pense toujours que je suis capable de changer les choses. Et avec le temps, ça n'a pas changé. Donc, je me définis comme une personne qui est extrêmement impliquée. J'aime beaucoup les gens. Je suis particulièrement dédiée à la cause des femmes et des jeunes. Au Dominique, tantôt, tu disais quand tu voyais les jeunes femmes, mais moi, c'est ma plus grande joie et de voir des jeunes comme Gracia arriver. Je me rappelle à l'époque où j'étais très impliquée au RIPAST et où j'avais connu Gracia. Moi, je vous dirais que ma vie, je dirais, je suis pas carriériste. J'y vais chaque fois que je vois un engagement où je pense que je peux faire une différence. Ce qui m'a amené une partie de ma vie déjà en Haïti, d'abord à croire en la démocratie et à contribuer à l'époque. Quand j'ai eu fini mes études en Belgique, j'étais revenue. C'était juste au moment des élections en 87 où je me suis mise comme bénévole. J'étais rentrée spécifiquement pour les élections et pour prêter mes forces au CEP. Évidemment, tout le monde se rappelle que ça s'est mal passé. Et après, quand je suis revenue complètement en Haïti, dans les années 90, je me suis lancée dans la politique et effectivement, j'ai participé au mouvement Lavalas à l'époque, ce qui, avec le temps, fut pour moi encore une déception. Mais je me suis dit, mais non, on va finir par y arriver un jour. Et vous devez savoir que je suis d'abord venue au Québec en 1980. J'avais détesté ça, il faisait trop froid. Et c'est pour ça que je suis partie en Europe pour continuer mes études. Et finalement, au début des années 2000, avec mes deux filles, avec la situation en Haïti où je ne voyais plus où je pouvais faire une différence, j'ai repris mes valises et je suis revenue ici et je me suis dit, bon, je vais recommencer à zéro. Et puis, j'ai regardé un petit peu pendant 3-4 mois, c'était quoi l'état des choses, qu'est-ce qui allait m'intéresser. Et puis, je me suis dit, bon, il y a vraiment de quoi faire ici dans la diversité. Et je me suis impliquée dans un organisme à Laval où j'ai travaillé dans un organisme en emploi qui avait en fait deux chapeaux, un chapeau organisme et un chapeau privé. Donc, je travaillais tout autant auprès de la Chambre de commerce de Laval, de l'industrie pharmaceutique que du côté de l'organisme, vraiment a aidé. À l'époque, c'était énormément de Maghrébins qui arrivaient dans le pays. Et j'ai commencé à m'impliquer. Et puis, bon, d'implication en implication, c'est comme ça qu'à Laval, ben, dans une activité, j'ai rencontré Emmanuel Dubourg, qui était venu faire une annonce, je me rappelle, à Laval, et qui, deux ou trois mois plus tard, a demandé, a envoyé un courriel, je suppose, à son réseau en disant « Je m'en vais en élection, est-ce que vous voulez m'aider ?» Et puis, vous savez, moi, après ma déception d'Haïti, c'était très difficile pour moi de me dire que j'allais encore, même bénévolement, participer à la politique. Mais quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, Marjorie, tu ne peux pas travailler et vouloir l'intégration. Et tu es en train de... Tu ne veux pas t'impliquer avec des Haïtiens parce que tu as juste peur d'être déçue. Donc, je me suis dit, allez, je vais lui donner un coup de main. Et après les élections, effectivement, comme d'habitude, je me suis lâchée à 400%. Et ben, sa directrice de campagne, après, lui a dit, ben, écoute, peut-être cette fille, il faudrait que tu ailles l'embaucher. Et ça a pris quasiment 6 mois ou 8 mois avant que j'accepte d'y aller. Donc, je suis revenue en politique, mais cette fois au Québec. Je suis restée 5 ans à travailler comme son attachée politique, ce qui a été pour moi une expérience fantastique, qui m'a permis de bien comprendre les rouages de la politique québécoise à l'époque. Et je me suis de plus en plus intéressée à la politique canadienne. Mais je dois vous dire que pendant que je faisais ce travail-là aussi, je me suis beaucoup impliquée dans d'autres organisations. Je suis depuis plus de 15 ans très impliquée au Réseau des femmes d'affaires du Québec parce que moi, j'y naviguais comme un poisson dans l'eau, mais je trouvais qu'on n'avait pas assez de diversité. Les femmes des communautés ne s'inscrivaient pas, ne se reconnaissaient pas. Donc, je dois vous dire que ça a été un travail de longue haleine. Finalement, l'an passé, je suis devenue présidente de leur jury du prix Gala Femmes d'affaires du Québec et je crois que c'était la première fois qu'on avait eu, un jury diversifié, des équipes de sélection diversifiées. Puis on a eu aussi des récipiendaires venant de la diversité, ce qui était extraordinaire. C'était la première fois qu'au niveau du réseau, il y avait autant de diversité. Donc, pour ça, je suis très fière. Et j'ai été aussi très impliquée au REPAS. Je n'ai pas de barrière en ce qui a trait aux communautés. Je crois qu'on arrive tous les immigrants, on vient là pour faire sa place et les gens ont juste besoin de gens qui connaissent un peu plus le système pour les aider à y naviguer et à s'y épanouir. Donc moi, je le fais dans la mesure du possible. Puis, j'ai quitté la politique provinciale en 2013 et puis là, je suis partie en me disant je ne vais plus faire de politique, j'ai fini de faire mon tour. Mais bon, en 2016, j'ai eu une offre d'aller au fédéral et c'est comme ça que j'ai rejoint le cabinet de Jean-Yves Duclos qui était à la famille et au développement social, ce qu'on appelle ESDC au fédéral, qui est un ministère magnifique qui s'occupe de toutes les affaires sociales. Et là, ben, j'ai commencé comme conseillère aux politiques, je suis devenue directrice des affaires parlementaires, puis j'ai fait un intérim comme chef de cabinet. Puis, au début 2019, je suis devenue dans ce ministère la chef de cabinet, j'ai été la première femme chef de cabinet issue des communautés noires au gouvernement fédéral. Et étant donné qu'une de mes forces, c'est l'organisation, et c'est vraiment ma passion, c'est mettre les gens ensemble, et donc les campagnes électorales, c'est vraiment mon terrain de jeu. Ben, j'ai dirigé 2 fois la campagne au Québec en 2019 et en 2021. Puis après 2021, ben, on m'a demandé de devenir chef de cabinet adjointe au premier ministre du Canada. Voilà.
Alors, vous savez, en fait, le seul cadeau que je peux vous offrir, c'est les ondes de CKUT. Et je suis très fier de voir que vous avez quand même marqué l'histoire et du Québec, pour ne pas dire du Canada. Et en parlant de votre ministre Duclos, j'ai eu à le rencontrer quand il était venu en fait faire un don pour une salle qui portait le nom de Nelson Mandela. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein?
En effet, oui.
Ouais, je lui ai adressé la parole, mais malheureusement, il ne m'a pas répondu. Il a passé le téléphone, le micro à un député fédéral. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, je suis content de vous avoir et je dis que vous avez marqué l'histoire tant au niveau fédéral qu'au niveau municipal.
Alors, excuse-moi Raymond, je crois que tu as oublié une des personnes qui est sur la ligne.
Non, 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 mais c'est là que je viens, là. Je viens avec elle. Okay. Oui, oui, oui. Parfait. Alors, c'est votre tour. C'est votre tour. Merci. Prenez votre temps.
Merci et
surtout,
beaucoup, Monsieur Laurent.
Surtout au niveau de la culture, vous avez du travail à faire.
Oui, mais et très enthousiaste de pouvoir démarrer ce mandat-là avec cette belle responsabilité en culture. Puis je pense que ça mérite que je retourne un peu dans le temps pour voir comment des fois les étoiles peuvent être bien alignées par rapport aux choses qu'on doit mener dans sa vie. Je suis à la base originaire des cantons de l'Est. Mes parents ont immigré d'Haïti à la fin des années 70, début 80. Donc, je fais partie, pour peut-être certains de vos auditeurs ou auditrices, de cette petite communauté haïtienne qui a grandi et fleuri dans les cantons de l'Est à la fin des années 70 et début 80. Donc, c'est là que j'ai grandi. Je viens d'une famille où il était important d'être au service de son prochain. Donc, mon père a fait partie de plein de comités. Ma mère a fait partie de plein d'initiatives. Ça a toujours été important dans ma famille d'être très, très impliquée. La vie m'a menée à Montréal pour les études au départ, mais aussi parce que j'avais envie d'avoir accès à plus de culture. Mon parcours scolaire m'a amenée à jouer de la musique, participer à des initiatives, mais aussi m'impliquer dans des causes communautaires. Donc, quand je suis déménagée à Montréal, j'ai fait des études en sciences politiques et j'ai parallèlement fait beaucoup de formations en gouvernance. Donc, la vie par la suite m'a amenée à travailler dans plusieurs organismes communautaires. J'ai travaillé pour le Y des femmes et tout dernièrement, avant de faire le fond en politique, pour un organisme qui s'appelle Pour Trois Points, qui a été fondé par M. Fabrice Ville, qui vient en aide aux jeunes en soutenant le développement des coachs sportifs. Et parallèlement à ça, j'ai aussi, étant une friande de gouvernance, j'ai siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont le Conseil de presse Québec, Concertation Montréal, le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants, la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville. Donc, un des enjeux que je rencontrais pendant mes études en sciences politiques était beaucoup de causes m'intéressent, mais je ne sais pas comment les canaliser. Puis, je trouvais que la politique pouvait être un engagement demandant et qui vient avec ses contraintes au départ. Et cependant, en 2021, on m'a approché, on m'a dit, je pense que le municipal pourrait être une très, très belle option, ce qui m'a ramené à une belle expérience que j'avais vécue autrefois. C'était une simulation à l'Hôtel de Ville de Montréal. Et je me suis rendu compte que le municipal était une belle façon pour moi de continuer à être au service des gens avec proximité, tout en étant capable de voir des changements dans le concret. Donc, en 2021, j'ai fait le saut, remporté mes élections en novembre dernier, et j'ai eu la chance d'être nommée par Mme Plante et Mme Olivier comme responsable de la culture et du patrimoine pour la Ville de Montréal, qui est une responsabilité certes grande, avec plusieurs enjeux, mais je suis très, très fière d'être une alliée pour une si noble communauté, si importante dans le tissu social de notre ville, dans la couleur, l'identité de la Ville de Montréal. Donc, voilà. Puis, je suis très heureuse, encore une fois, d'être avec vous, puis de pouvoir discuter avec des femmes comme Mme Olivier, Mme Michel, Mme Kasoki-Katawa. Je pense qu'on ne réalise pas qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de s'inscrire dans l'histoire, où les femmes, comme on dit en créole, ont été des poteaux mutants, mais aujourd'hui, on a l'opportunité de voir la force, la richesse et la lumière de ces poteaux mutants prendre place au service de la société. Donc, voilà.
Alors, je vais faire une petite pause pour voir si on peut intégrer Madame Gauthier sur la ligne. Juste un petit instant. Alors, c'est avec Michel-Ange Basile, l'union fait la force et non la face.
Tête des frères. Nous qui fierté coûte la peau de sa vie. Nous ces premiers noués sous la terre, c'est sa yodie. Mouche blanc criait la division. Si nous pas l'ouvrir chez nous, dans génération ça, mais qui côté nous pour aller.
Alors, et la magie des ondes nous a permis de rejoindre Madame Gauthier. Madame Gauthier, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Bon, alors, et vous êtes cinq maintenant. Vous êtes cinq maintenant. Alors, parlez-nous de vous.
Ah oui, dans quel sens vous voulez que je parle de
mais
moi?
Mais dans quel sens, en fait? Nous avons des élus, nous avons des élus. Votre parcours en politique, c'était expliqué bien avant et les autres invités. Et je vous ai dit dans quelles circonstances que j'allais vous rencontrer. Vous êtes la seule élue à la ville de Laval. Vos responsabilités, c'est quoi? Vous êtes sur combien de mandats?
Oui, alors moi, j'ai été élu, bien entendu, j'ai été réélu cette année, puis ça fait mon troisième mandat. En passant, je tiens à remercier les citoyens d'Auteuil qui m'ont fait confiance pour un troisième mandat. Alors maintenant, je suis responsable du dossier, je suis président de la SPL et je suis responsable du dossier des agricultures.
Bon. Alors, c'est quand même très intéressant. Alors, moi, je dis que vous avez quand même fait l'histoire de la communauté noire. Je suis très fier de vous. Et il y a deux personnes que j'aimerais remercier. Edwidge Bernier et Claudel Toussaint, ce sont mes complices. Et c'est un bonhomme, en fait, Edwidge. Il est très gentil. Et Claudel, c'est un frère. Alors, ça veut tout dire, hein?
Oui, ça veut tout dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir pensé à moi. C'est parce que j'ai été fait une course aussi, j'ai manqué votre appel.
Bon.
Mais de toute façon, comme je disais, c'est la première fois qu'une femme d'opérésie des communautés culturelles, en plus une femme noire, qui a été nommée présidente du conseil d'administration de la STL. Vous savez, la STL a un gros budget, à peu près de 100 millions de dollars, par année, et la ville de Laval subventionne la SPL à 91%, par exemple, pour ça. Et la SPL est un organisme très innovant. On fait beaucoup de choses pour les citoyens de la ville de Laval. En premièrement, je peux vous citer l'accessibilité, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite. Et maintenant, ça va faire, par exemple, le paiement de carte de crédit qui peut se faire, par exemple, à la SPL. Et c'est une première fois en Amérique du Nord, Longueuil et d'autres organismes sont prêts à suivre nos modèles. En plus, la SPL, qu'est-ce qu'on fait encore? Et puis, c'est une des premières villes qui a reçu les autobus électriques. C'est pour contrer l'effet de serre. Ce qui veut dire d'ici 2035, on va avoir plus d'autobus électriques qui va rouler à la ville. C'est l'une des raisons que la RTM a donné de l'argent à la ville, à la STL, pour pouvoir moderniser les garages. On est en train de moderniser les garages et on a aussi les Concorde, Boulevard des Laurentides, Cure et Lavelle. On est en train de tout refaire ça pour donner la chance aux citoyens de voyager en transport en commun. Bien que vous savez aussi bien que moi, la COVID nous a fait du tort. On a dépensé pas mal de sous, c'est en 2020-2021, pour mesures sanitaires pour la COVID. À peu près 2,3 millions qu'on a dépensé, par exemple, pour la COVID. L'achalandage commence à remonter à 52%. La semaine dernière, c'était à peu près 60%. On espère, par exemple, que ça va monter à 70-80%, mais on croise les doigts, mais on ne sait pas. Si ça remonte, par exemple, c'est un plus pour la STL. Mais malgré, on a des problèmes avec les chauffeurs d'autobus, Ne vous en faites pas, par exemple, c'est un sujet qui se discute avec le patronat. Pour l'instant, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus. Les chauffeurs vont finir par créer un terrain d'entente avec le patronat.
Bon, c'était quand même très intéressant. Chère dame, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou échanger entre vous, parce qu'on arrive presque à la fin de notre échange.
Mais en tout cas, de toute façon, je pense que vous faites un très bon travail pour la communauté, pour la communauté haïtienne, en principe les Noirs. C'est très bien et puis je pense que la solidarité compte beaucoup. Vous savez, moi, la seule chose que je vais vous dire, oui, je suis présidente de la FPL, par exemple, mais par contre de la FPL, je trouve que c'est très bien, c'est très représentatif pour la communauté noire. Enfin, et puis c'est l'exemple et l'image positive que je projette pour les jeunes de la communauté, par exemple, pour qu'ils prennent leur place à la relève. C'est pas évident, c'est un gros mandat. Et je demande la solidarité des communautés. Et d'autant plus, quand on est dans un poste clé comme ça, c'est que ça représente le respect de la communauté, le respect et la fierté de la communauté. Parce que vous savez, par exemple, la mentalité, quand les gens voient que les gens de leur communauté avancent, il y a un respect. Mais quand il n'y a pas d'avancement, la société a tendance à nous niveler vers le bas. Et puis, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci, M. Claudel, je l'ai déjà rencontré. Et l'autre monsieur aussi, je pense que c'est votre frère. Et puis, on va continuer à travailler ensemble en solidarité. Et puis, pour l'avancement de notre communauté aussi, pour l'avancement des gens issus des communautés culturelles.
Alors, Erika, c'est ton tour de terminer.
Merci beaucoup, M. Laurent. Je suis vraiment interpellée par les mots de la dame qui vient de parler, simplement pour dans l'aspect de la solidarité, dans le fait que c'est une opportunité en or de pouvoir faire construire, nourrir nos communautés. Puis je pense qu'il y a à ne pas hésiter à venir vers nous. On a une opportunité en or de faire avancer des dossiers de manière vraiment structurante. Donc, je vous invite, n'hésitez pas, comme elle le disait, de nous interpeller, de venir vers nous pour qu'on puisse faire quelque chose de riche pour nos communautés. Encore merci de l'invitation, M. Laurent.
Alors, et moi, j'ai une petite question pour vous. Et les jeunes, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Parce que les jeunes ont besoin de la culture. Et il y a beaucoup à faire avec la question, parce que quand on rencontre un noir dans la rue, c'est un gang. OK? Alors, j'imagine que, en fait, vous avez du travail, du pain sur la planche.
Définitivement, puis je pense que je parlerai d'accessibilité, je parlerai de s'assurer, c'est un souhait pour moi, de pouvoir travailler avec tous les organismes, je parle des maisons des cultures, des bibliothèques, à rendre la culture accessible à tout le monde et à travers toute la ville de Montréal. Il y a un grand chantier, un grand travail à faire, certes, mais je suis optimiste et effectivement, je pense que la culture peut apaiser les esprits et nourrir aussi le cœur. Donc, je pense que c'est la chose à laquelle j'ai envie de m'atteler tout particulièrement pour les jeunes de nos communautés.
Alors, et je vais continuer avec la mairesse de Côte-des-Neiges.
Oui, mais écoutez, je vais réitérer, notamment parce qu'on entend le mois du droit des femmes, que je suis vraiment honorée en fait d'être autour de cette table virtuelle avec l'ensemble de mes collègues. Je veux vraiment les remercier pour le travail qu'elles ont fait, que ce soit Erika, nous qui sommes plus jeunes, et, ou